Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Il y a toutes sortes de criminels, mais parmi eux, il y a une catégorie qui m'a toujours fasciné. Ce sont ceux que tout accuse, mais qui nient. Qui nient d'un bout à l'autre sans jamais défaillir, entraînant en général dans leur sillage tout un tas de croyants. En voici un spécimen, Arnaud Thomas Chevalier, maître Arnaud Thomas Chevalier, notaire, qui est condamné pour avoir tué en 1980 un autre notaire. C'est une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec l'un de ceux qui a mené l'enquête, qui s'appelle Gérard Verguet, à l'époque commandant de police à la police judiciaire de Nancy. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 4 février 1980, à Cons-la-Grandville, petite bourgade de Meurthe-et-Moselle, maître Jean Flaudert, notaire, quitte son domicile sur les coups de 17h. « Chérie, j'ai rendez-vous avec une cliente. Amuserai. Je serai là pour dîner, hein. À tout à l'heure. » Museret, c'est dans la Meuse, à environ une demi-heure de route. Mais à l'heure du dîner, maître Flaudert n'est toujours pas rentré. 19h, 20h, 21h, 22h, Madame Flaudert commence à se dire « Il y a un problème ». Alors elle appelle son fils, Jean-François, qui, lui-même, appelle aux alentours de minuit Denis Rotti, le premier clerc de l'étude de son père, 15 ans qu'il travaille avec lui. « Dites-moi, Denis, ma mère nous a parlé d'un rendez-vous à Museret. Ça vous dit quelque chose ?»
Oui, j'en ai entendu parler, c'est un rendez-vous qui a été décidé hier après-midi.
Écoutez, Denis, je me dis qu'il a pu avoir, je sais pas moi, un accident ou faire un malaise.
Écoutez, Jean-François, si vous voulez, on y va tous les deux. On refait la route et on le cherche, quoi.
Et donc, en pleine nuit, Jean-François Flaudert récupère Denis Rotti chez lui et il se met en route pour Museret. Arrivé sur place, il sillonne le village de long en large. Ils ne savent pas où il avait rendez-vous exactement. Et vers 2h du matin, il repère sa voiture, sa Renault 20, en bordure de la route, près d'un champ, à la sortie du village. La portière est ouverte, la voiture est vide, les clés sont sur le contact. Et là, à quoi 15 mètres, ils aperçoivent une forme allongée par terre, devant une maison en chantier. Maître Flaudert. Il court jusqu'à la ferme la plus proche. Il réveille les fermiers.
Vous voulez quoi? Je vous en supplie. Téléphonez, il y a eu un accident grave. Quelqu'un va mourir. Il est peut-être déjà mort d'ailleurs.
Le paysan appelle les gendarmes. Il accompagne le fils Flaudert et le clerc de notaire sur place. Il se penche sur le corps. Il pose la main comme ça, sur sa tête.
Il est mort, hein? Et vous avez vu le trou, là? Le trou sur la joue, là? Il s'est fait flinguer, votre gars. Et ce qui est bizarre, vous avez remarqué, c'est que le corps est sec. Hein? Son costume est complètement sec. Alors qu'il mousine. Il mousine depuis le début de la soirée.
Mousiner, c'est du patois. Ça veut dire pleuvoir, mais une pluie fine. Un crachin, quoi. Et c'est vrai qu'il mousine ce soir. Et que le corps de maître Flaudert est totalement sec. Les gendarmes arrivent sur place. Ils ne vont pas avoir trop le temps de s'intéresser à cette affaire, car dans la matinée, le procureur désigne la police judiciaire de Nancy pour mener l'enquête. Une enquête pour meurtre, car c'est un meurtre. Et évidemment, quand les flics de la PJ débarquent, ils commencent par fulminer contre les gendarmes. Classique.
Putain! Tu crois qu'ils auraient installé un périmètre de sécurité, les cons? Ils ont pollué la scène de crime avec leurs bagnoles et leurs gros pieds, mais c'est pas vrai! Quelle bande de nazes!
commissaire n'a pas totalement tort. Les traces de pneus de la Renovin du notaire sont impossibles à distinguer de celles laissées par les quatre ailes des gendarmes. À part ça, que dit le médecin légiste ?
Votre gars a pris plusieurs balles, hein, monsieur ? 6 balles.
6 balles en tout. Si vous voulez mon avis, c'est ce qu'on appelle une exécution. On a 3 balles tirées à bout portant et 3 balles tirées à bout touchant. 4 de ces balles ont été mortelles et 1 balle a traversé sa main, ce qui semble indiquer qu'il a voulu se protéger.
Le calibre, docteur ?
Oh, c'est le plus courant de tous. C'est du 22 long rifle. D'après le légiste, le notaire a été tué entre 22h et 2h du matin.
Ah ! Autre chose.
Avant de mourir sous les balles, votre notaire a dîné et il a bu un verre de vin.
À quelle heure ?
Environ 2 heures avant d'être tué. Avec qui a-t-il dîné ? Il faut donc tenter de reconstituer l'emploi du temps du notaire. Et pour l'instant, seule certitude, il est parti de chez lui à 5 heures. Pas mal d'habitants de Museret l'ont vu rouler dans le bourg vers 5h30, 6h. Mais ils ne sont pas très bavards, les villageois, au cas où le tueur serait encore dans le coin.
S'il vous plaît, je veux pas que mon nom apparaisse. Je veux bien vous dire ce que j'ai vu, mais je veux pas que mon nom apparaisse.
D'autres ont vu la voiture garée, là où on l'a retrouvée, sans son conducteur, à partir de 6h30. Un peu plus tard, l'institutrice, qui avait une réunion de parents d'élèves, l'a vue aussi.
Quand je suis passé à 20h30 pour aller à ma réunion, la voiture était là. Et quand j'en suis reparti à 23h, elle y était encore.
Et vous avez vu le corps ?
Le corps ? Ah non. Non, j'ai vu la voiture, oui. Mais pas le corps.
Pourtant, le corps était totalement visible depuis la route. Bon, avec tout ça, on va pas aller très loin. L'idée qui trotte dans la tête des policiers de la PJ, vous l'avez compris, c'est que le notaire n'a pas été tué là où on l'a retrouvé mort, puisque ça mousinait et que son costume était sec. Il a été tué avant et déposé là après. En revanche, le corps n'a pas été traîné parce que le légiste est formel, aucune griffure sur le cadavre. Et par ailleurs, le costume n'est pas déchiré ni froissé. Enfin, il n'y a aucune traînée sur le sol. Aucune. Alors, avec qui avait-il rendez-vous à 5 heures ? Dans une poche de son pardessus, on trouve un petit papier. Madame Erard, Museret, première maison à droite venant de Nouillon-Pont, et entre parenthèses, travaux. Le problème, c'est qu'à Museret, il y a plusieurs familles Erard. Les policiers vont les voir un par un.
Ah non ? Bon, c'est pas moi qui lui ai demandé de venir, non ? Non, non. Je le connais, hein, de réputation. Mais je ne l'ai pas appelé, ce notaire-là.
Donc, possiblement, le nom d'Erard a été utilisé comme appât pour le piéger. Qui aurait pu en vouloir à Maître Flaudert ? Quelqu'un de sa famille ? Rien ne conduit sur cette piste. Alors une femme, une maîtresse. Oh non. Non, le notaire était un bon père de famille. Vous savez qu'on a parfois des surprises en la matière, mais là, non. Alors peut-être un dossier. Un dossier qu'il suivait à son étude. Et donc, l'étude est perquisitionnée. Sacré boulot, hein. Ça carbure, un notaire de province. Maître Flaudert avait plus de 7000 dossiers en cours. 99% de dossiers très ordinaires. Et 2 dossiers plus litigieux. L'un concerne une société immobilière appelée les Myrtilles. Une vente de terrain contestée en raison d'irrégularités. Dans cette affaire, le notaire était convoqué devant la brigade financière. Le deuxième dossier litigieux est beaucoup plus intéressant. Il concerne la succession d'une mademoiselle Renaud. Quatre ans avant de mourir, cette vieille dame, propriétaire de plusieurs immeubles à Longwy, avait demandé à Maître Flaudert de lui rédiger un testament en faveur de l'une de ses locataires. Une femme issue d'une grande famille de la communauté des gens du voyage. Des gitans, les Clarennes. Flairant l'embrouille, le notaire avait refusé. Or, quatre ans plus tard, quand la vieille dame est morte, on a retrouvé chez elle un testament manuscrit qui désignait comme héritier la famille Clarennes. Quand il avait appris ça, Maître Flaudert avait fait connaître ses doutes sur la valeur de ce testament. Il avait fait clairement savoir que peut-être les Clarennes avaient abusé de la faiblesse de cette vieille dame. Et donc ça ouvre une piste. Les Clarennes. Est-ce que les Clarennes n'ont pas voulu le faire taire? Tous les membres de la famille Clarennes sont donc interpellés et placés en garde à vue. Et tous ont un alibi pour la nuit du meurtre. Mais en perquisitionnant chez eux, ils sont tous sédentarisés, les policiers tombent sur des armes, dont de nombreuses 22 longs rifles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait 7 armes. Les 7 armes sont envoyées au laboratoire d'expertise scientifique de Lyon. L'une de ces armes a-t-elle tué le notaire? Le résultat tombe en juillet.
C'est bon, on a l'arme du crime. C'est un revolver de marque Rome.
Un revolver saisi chez Maurice Clarennes. Un garçon de 24 ans qui est immédiatement placé en garde à vue avec sa femme, Marie-Hélène.
Je comprends pas. Cette arme-là, elle a jamais servi. Jamais. C'est juste un objet de décoration. Quand on s'est marié avec ma femme, on voulait faire une déco Far West à la maison. Ben voilà, ça collait bien, c'est tout.
Et Maurice Clarennes jure qu'il ne connaissait pas ce notaire, qu'il a juste entendu parler de lui dans les journaux. Il dit par ailleurs qu'il ne fréquente plus du tout sa propre famille, qu'il ne voit plus que sa grand-mère de temps en temps.
Et vous faisiez quoi, monsieur Clarennes, le 4 et 5 février dernier?
Je crois bien qu'on était chez une tante. Mais je suis pas trop sûr de la date, hein.
N'empêche que Maurice et Marie-Hélène Clarennes sont déférés devant le juge d'instruction et ils sont mis en examen pour assassinat et écroués à la maison d'arrêt de Nancy. Elle est presque résolue, notre histoire. Là-dessus, les policiers découvrent que bien que sédentarisé, le duo avait une caravane. Et que cette caravane, ils l'ont vendue juste après le meurtre. Est-ce que ça ne serait pas dans la caravane qu'ils l'ont tuée? La caravane est retrouvée. Elle est fouillée de fond en comble. Pas de tache de sang. Pas de trace de Maître Flaudert. Mais très peu de temps après, contre-expertise balistique, confiée au service de l'identité judiciaire de Paris. Et là, changement total de décor.
Bien. Alors pour nous, il est très peu probable que cette arme soit l'arme du crime. Hein. Très peu probable.
Allons bon. La balistique serait donc une science molle. Troisième expertise, confiée cette fois à des experts allemands de Wiesbaden.
Les traces de canon et les traces sur les balles, hein, sont de largeur différente. Hein. Ça n'est pas l'arme du crime. Hein. Désolé.
On a frôlé l'erreur judiciaire. Et Maurice et Marie-Hélène Clarennes sont relâchés et relaxés. Pour les 4 mois qu'ils ont passés en prison pour rien, on doit leur verser 120 000 francs d'indemnité. Et à partir de là, On n'a plus de piste. Et les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans. Jusqu'à ce qu'en 1989 éclate une autre affaire de notaire. À Longwy, une certaine Béatrice Thierry vient se plaindre que son amant, notaire, l'a dépossédée de 2 immeubles d'une valeur de 310 000 francs, sans lui verser un seul centime.
Et il s'appelle comment, votre amant notaire ?
Arnaud. Arnaud Thomas Chevalier. Maître Thomas Chevalier. Ça alors ? C'est le fils de l'ancien bâtonnier. Docteur en droit, professeur à la faculté de Nancy, mieux que ça. Sa femme est procureur.
Cela dit, il se dit que c'est un coureur de jupons. Cette Béatrice Thierry, qui vient se plaindre de lui, a été sa maîtresse pendant 5 ans.
Au début, vu que c'était un notable, quoi, je lui ai proposé de s'arranger à l'amiable. Mais il n'a pas voulu. Il m'a envoyé bouler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens porter plainte.
Le commissaire de police en charge de l'enquête a à peine le temps de feuilleter le dossier que déjà, l'autre l'appelle.
Oui. Bonjour, commissaire. Maître Thomas Chevalier à l'appareil. Dites-moi, je crois savoir que vous enquêtez sur moi. Alors, je voulais vous dire que je suis entièrement disposé à répondre à vos questions et à m'expliquer de tout.
Maître Thomas Chevalier, vous n'êtes pas n'importe qui, n'est-ce pas ? Mais néanmoins, voyons-nous, à quelle heure ça vous arrange ?
18h ce soir ? Ça vous va ?
À 18h pile, maître Arnaud Thomas Chevalier se présente au commissariat de Longwy. Il a l'air parfaitement serein, genre « je n'ai rien à craindre ». Pour le mettre en confiance, les flics lui servent le grand jeu. Ils autorisent sa femme à lui porter un petit frichti pendant la garde à vue. Et pour lui, ils sortent la nappe blanche et la porcelaine. Et l'autre est en confiance, alors il parle. Et assez vite, il apparaît que c'est un escroc, un type qui banane la quasi-totalité des clients de son étude, un délinquant financier qui sévit depuis au moins 10 ans et qui ne trouve pour se justifier que des excuses moisies.
Je pense qu'il s'agit d'une erreur comptable. Rien de plus.
Bien sûr. Sur le plan personnel, on apprend qu'il vient de se séparer de sa femme, mais que ça se passe bien. Et d'ailleurs, il dit qu'il a présenté sa nouvelle fiancée à sa fille et à son ex-femme, et que ça s'est super bien passé. On est content pour lui. Sauf que c'est pas le sujet. Car à la fin de la garde à vue, maître Thomas Chevalier est mis en examen pour faux en écriture publique et abus de blanc-seing. Et il est écroué. Direction la prison. Et donc, vers 9h du soir, entouré de policiers, le notaire traverse le hall du tribunal. Et sa fiancée est là, sa nouvelle fiancée. Et les policiers, bon prince, les laissent un instant tous les deux. Alors ils s'embrassent, et ils se parlent à voix basse, un petit moment. Et Arnaud Thomas Chevalier se tourne alors vers le procureur.
Monsieur le procureur, je peux lui donner la clé de ma voiture ?
Bien entendu. Bien entendu.
Et il lui remet la clé. Fin des embrassades. Quand la fiancée rentre chez elle, elle a la clé. Mais pas que. Elle a surtout un lourd secret sur la conscience. Ce qu'il lui a dit à l'oreille. Elle ne peut pas garder ça pour elle. Et qui appeler ? Elle appelle la femme d'Arnaud Thomas Chevalier, celle dont il est en train de divorcer, qui, je vous rappelle, est procureur de la République.
Allô ? Nadine ? Bonjour, Nadine. Écoutez, voilà. Arnaud m'a parlé tout à l'heure, dans le hall du tribunal, avant de partir pour la prison.
Et... il m'a dit qu'il avait tué quelqu'un. Que ça remontait à... 10 ans. Il m'a dit un nom, Flaudert. Flaudert, oui, c'est ça, je crois. Et du coup, ben... il m'a donné la clé de son cabinet. Il m'a dit d'aller enlever son arme. L'arme avec laquelle il aurait tué. Elle est cachée dans un cartable en cuir. À son étude. Et il m'a dit de faire ça avant que son étude soit perquisitionnée. Et moi, Nadine, j'avoue que je sais pas quoi faire, quoi.
Et là, que fait sa femme, qui est procureur de la République et en instance de divorce? Le lendemain matin, elle appelle son confrère, procureur de Brié, et elle lui balance tout. Le nom de Flaudert, le cartable en cuir, et dans la foulée, le procureur de Brié saisit la brigade criminelle et lui demande d'aller perquisitionner l'étude de Maître Thomas Chevalier. Évidemment, les flics trouvent le cartable, dans le bureau, au pied d'un fauteuil. Et dans le cartable, un revolver Arminius de calibre, 22 longs rifles, chargé, plus une boîte d'une centaine de munitions et des documents, des blancs-seings et des testaments partiellement rédigés.
« Cette arme vous appartient, monsieur ?»«
Oui. Oui, c'est la mienne. »«
Cette arme, monsieur, a-t-elle servi à tuer ?»
C'est ce que vous allez penser, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, je dirais, à vous de prouver que c'est moi.
Et le lendemain, le nom de Flaudert refait la une des journaux régionaux. Un notaire aurait tué un autre notaire il y a 9 ans. Quelle histoire! Évidemment, le revolver Arminius est envoyé au labo de balistique. Je sais que dans cette histoire, on a des raisons de douter de l'art de la balistique. N'empêche que d'après le labo, c'est l'arme du crime. Et il a dit prouvez-le, eh bien la voilà, la preuve. Ajoutez à ça les confidences de sa fiancée.
Elle ne ment pas. Je sais que je lui ai dit ça. Je le reconnais. Mais je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai parlé de Flaudert parce que c'est le premier nom qui m'est passé par la tête. Mais je n'ai pas tué Maître Flaudert. Si vous pensez que c'est moi, je vous répète, il va falloir le prouver. Vous pensez bien, je suis docteur en droit. Je connais la procédure pénale. J'ai fait une thèse, ma thèse sur l'instruction. Alors pensez non. Je vais pas me laisser faire. Hein.
Il est énervant. Les flics en ont par-dessus la tête de lui. Ce côté obséquieux, donneur de leçons, sûr de lui. Une vraie tête à claque. Pour se défendre, Arnaud Thomas Chevalier enrôle une jeune avocate qui est une de ses anciennes étudiantes. Brillante, très brillante. Qui deviendra célèbre en tant qu'avocate de Francis Holmes. Maître Liliane Glock. Dans cette affaire, à ce stade, il nous manque un mobile. Pourquoi est-ce que Thomas Chevalier aurait tué Flaudert? On pense naturellement à une rivalité amoureuse, mais non. Je vous le répète, Flaudert était marié. Au moment de son meurtre, en 1980, on a cherché des maîtresses, on n'en a pas trouvé. Flaudert, c'était papa dans maman, point. En revanche, maintenant que vous connaissez un peu Thomas Chevalier, vous avez compris que c'est quelqu'un qui aime le fric. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une embrouille financière entre eux? On va donc gratter de ce côté-là. Et on trouve une piste. Au moment du meurtre, en 1980, les deux études, celle de Maître Flaudert et celle de Maître Thomas Chevalier, sont concurrentes. Et Flaudert fait un joli coup, un très joli coup. Il est sur le point de s'associer avec Maître Cockerill, juste avant d'être tué. Et pourquoi est-ce que c'est un joli coup? Parce que la famille Cockerill règne à l'époque, et depuis 2 siècles, sur l'industrie sidérurgique du coin, les hauts fourneaux de la région.
Or, en 1980, la sidérurgie bat de l'aile, les Coquerel s'apprêtent à mettre en vente la totalité de leur patrimoine immobilier. Alors s'associer avec un Coquerel pour un notaire, c'est comme mettre la main sur la poule aux œufs d'or. Flaudert a failli être très riche. Failli, puisqu'il est mort. Puisqu'il est mort avant de s'associer. Et qui a récupéré le marché après sa mort ? Arnaud Thomas Chevalier. Ça nous fait un sacré mobile, ça. Ça nous fait même un mobile en or. Sauf que, comme il le dit lui-même, prouvez-le ! Prouvez-le ! En attendant, le jour du meurtre, Arnaud Thomas Chevalier a un alibi. Le meurtre, c'était un lundi ? Oh ben, tous les lundis, je donnais des cours à la faculté de droit de Nancy. C'est bien la preuve que c'est pas moi. On vérifie. Une secrétaire de la fac a gardé tous les emplois du temps de 1980. Coup de chance. Et c'est ballot. À l'époque, c'est le mardi et le jeudi que maître Thomas Chevalier donnait ses cours à la fac. Jamais le lundi. Il n'a plus d'alibi. En revanche, il a un nouvel argument pour prouver son innocence. À l'époque, j'avais des problèmes de santé. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, 5 jours après le meurtre de Flaudert, j'ai fait une rupture d'anévrisme. Et dans les jours qui précédaient, je me souviens, j'avais de ces céphalées absolument terribles, avec des maux de tête, etc. J'aurais été incapable, vous m'entendez ? Incapable de commettre un meurtre dans cet état. Incapable, je vous le dis. Mouais. On demande leur avis à des experts. Et ils disent que son état de santé a pu se dégrader, effectivement, dans les 15 jours qui ont précédé la rupture d'anévrisme. Mais ils disent aussi que ça ne l'empêchait pas de commettre un meurtre. Absolument pas. Et donc ça aussi, ça ne tient pas. En mai 1991, une contre-expertise balistique est réalisée à Toulouse. Et elle confirme que le revolver de Thomas Chevalier est bien l'arme du crime. Mais il a encore une explication. Moi, je me dis qu'on a très bien pu m'emprunter le revolver. À l'époque, j'avais une maîtresse. Elle habitait dans le même immeuble que les Clarennes. Les Clarennes ! Le retour ! Les gitans ! Il veut les faire revenir dans la valse. En avril 1993, une reconstitution est organisée par le juge d'instruction. Maître Thomas Chevalier refuse de refaire les gestes, puisqu'il est innocent. En octobre, l'instruction est terminée. Il est renvoyé devant la cour d'assises, pour meurtre. Son procès s'ouvre le 20 mars 1995 à Bar-le-Duc. Et d'entrée, le président commet une maladresse. Nous avons ici monsieur Thomas Chevalier, ex-notaire. Oh là là, le crime de lèse-majesté. Pas ex-notaire, monsieur le président. Je tiens à vous faire remarquer que je n'ai pas été destitué. Je suis toujours notaire. Qu'est-ce qu'il est énervant ? Audience après audience, il continue de nier. Il assume ce qu'il a dit à sa fiancée. Il reconnaît qu'il avait ce revolver. Et puis c'est tout. Pour le défendre, son avocate, maître Liliane Glock, tente de remettre en scène les gitans, les Clarennes. Et d'ailleurs, on les fait venir à la barre. Mais ils n'ont rien à voir avec cette histoire, même si, à un moment, le commissaire de la PJ vient raconter qu'à son avis, selon son pifomètre, la manière de tuer était celle d'un clan. Et donc, quand on entend clan, on entend clan de gitans. Sa fiancée de l'époque, celle à qui il a fait ses confidences, est bien sûr appelée à témoigner. Il la regarde. Je t'en veux pas, tu sais. Vas-y. Vas-y. De toute façon, on est au-dessus de tout ça. Hein ? Si tu dois dire quelque chose,
Dis la vérité.
Qu'est-ce qu'il est énervant. Et elle, elle raconte ce qu'il lui a dit, comment il le lui a dit. Elle dit que quand il a prononcé le nom de Flaudert, il n'a pas hésité une seule seconde. C'est accablant. Maître Glock lui demande.
Pour vous, madame, est-ce qu'il est l'auteur de l'assassinat?
Ah non? Ah non, il aurait pas pu faire ça. C'est un pleutre, vous savez. C'est un trouillard, Arnaud. C'est un faible, quoi.
Et toutes les maîtresses qui défilent à la barre disent la même chose. Et sa femme, procureure, aussi.
Ah non, Arnaud est absolument incapable de tuer quelqu'un. Incapable.
Tous les témoins disent qu'il est truqueur, voleur, obsédé par l'argent, mais incapable de tuer. Bon. Au terme de 7 jours de procès, l'avocat général requiert 20 années de réclusion criminelle. Quand il entend ça, Arnaud Thomas Chevalier s'effondre en larmes. Les délibérations durent 2h30. Et à la fin, il est reconnu coupable. Et il est condamné à 18 ans de prison. Et 2 ans plus tard, pour toutes ces embrouilles de notaire, il prend 14 ans de plus. En France, vous le savez, les peines de prison ne s'ajoutent pas les unes aux autres, elles se confondent. Et donc Arnaud Thomas Chevalier a passé au total 13 années en prison. Dès sa sortie, il a pris un nouvel avocat, maître Jean-Marc Florent, célèbre pour avoir défendu Patrick Dils, pour tenter d'obtenir une révision de sa condamnation. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il produise des éléments nouveaux. Et on n'en a pas trouvé. Là-dessus, il est parti en cavale, figurez-vous. En Afrique, au Cameroun. Et pourquoi donc? Oh, une de ces embrouilles dont il est spécialiste. À sa sortie de prison, il s'est remarié avec une jeunette de 26 ans. Une pauvre fille qui est morte juste après. Non sans avoir souscrit, au bénéfice de son chéri, 3 assurances d'essai qu'il a touchées pour 2 d'entre elles. Et le temps que ces assurances se rendent compte à qui elles avaient versé l'argent, il était déjà dans l'avion pour Douala, au Cameroun. Salah, dispensé, ne purgeait 4 années de prison de plus pour escroquerie à assurance. Et depuis, il est mort. Il est mort au Cameroun. Et mon histoire, forcément, s'arrête là. Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer 40 ans plus tard avec un acteur direct de cette enquête qui est le commandant de police de la police judiciaire de Nancy, Gérard Verguet, aujourd'hui retraité bien sûr. Vous êtes là monsieur Verguet, d'ailleurs ça m'intéresse bien, 40 ans après, quand je vous ai proposé de venir témoigner, il a fallu que vous replongiez dans des notes et des dossiers où cette enquête est encore dans un coin de votre tête.
C'est vrai que 40 ans, ça fait long.
Oui.
Mais il faut reconnaître que c'est une affaire quand même particulière et qui marque dans la carrière d'un flic de PJ.
Oui.
Donc j'ai relu quelques notes personnelles et puis j'ai regardé d'autres émissions sur ce sujet-là pour me rafraîchir un peu la mémoire.
Alors vous êtes là dès le début. C'est-à-dire au moment où la gendarmerie passe la main. D'ailleurs, le passage de témoin entre la gendarmerie, ça raconte une époque tout ça aussi. Hein. On est en 1980. Le passage de témoin entre la gendarmerie et la PJ n'est pas évident. Hein.
Oui, effectivement. Il faut revenir un peu à cette époque. La gendarmerie venait de créer, assez peu de temps auparavant, les sections de recherche de police judiciaire. Mmh. Entre parenthèses, ça permettait également d'avoir les mêmes initiales que les services régionaux de police judiciaire qui étaient, eux, par contre, direct des brigades mobiles créées par le Tigre.
Oui, donc police et gendarmerie avaient le même acronyme, SRPJ.
Voilà, c'est ça. Alors c'est à se demander si c'était volontaire ou pas. Enfin, là n'est pas la question. Donc le 5 février, j'étais de permanence au siège de la PJ à Nancy. La permanence consiste à être prêt à tout moment à partir sur les chapeaux de roue en cas de saisine du service pour une affaire donc essentiellement criminelle. Donc j'ai été avisé par le directeur de la PJ en tout début de matinée que le procureur de la République avait saisi le service pour procéder à l'enquête suite à la découverte du corps de Maître Flaudert.
Maître Flaudert. Alors le passage avec la gendarmerie, c'est là-dessus que je vous ai interrogé. On va pas s'attarder là-dessus, mais ça se passe pas si bien que ça. Hein. D'abord, vous considérez qu'ils ont salopé la scène de crime ?
Ah bah tout à fait, oui. C'est-à-dire que j'arrive sur les lieux, dans le secteur, là-bas, en fin de matinée, et puis la scène de crime était déserte, il n'y avait plus personne, plus rien. Donc je me suis adressé au commandant de la section de recherche pour qu'il nous remette les premières investigations, notamment le PV de constatation, qui en matière criminelle est extrêmement important. Et puis, les tractations ont duré, et j'ai fini par avoir le fameux PV de constatation qu'en fin d'après-midi.
Traînait des pieds.
Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça traînait des pieds parce que lorsque j'ai avisé donc le commandant de la SR que c'était la PJ qui était saisie, il n'a pas voulu me croire, enfin bref, quoi. Ça, il a tout fait pour retarder la mise à disposition du début de procédure qui avait été établi par ces gendarmes.
Et les gendarmes, donc, à l'époque, qui venaient de créer leur section de recherche, il faut le dire, aujourd'hui, les gendarmes ont des compétences de police judiciaire absolument égales à celles de la PJ, des dispositifs d'enquête. Je raconte beaucoup d'histoires ici qui font que les gendarmes et les policiers sont à égalité en termes de performance sur des enquêtes de police. C'était pas le cas à l'époque, et notamment, ils n'ont pas su protéger cette scène de crime. Ça vous a gêné ?
Bah, évidemment, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, là, les premières constatations sont extrêmement importantes pour la suite de l'enquête. Quand on est arrivé, il n'y avait plus rien sur place, les lieux étaient vides, donc je ne pouvais pas me baser sur quelque chose de concret, sur un procès verbal, et il a fallu reprendre un peu tout à zéro. Je pense qu'il est possible aussi que ce tout début de l'enquête a été un peu léger de la part de la section de recherche de gendarmerie, tout simplement parce qu'au départ, ils sont partis sur un accident de la circulation. Alors bien que le premier témoin qui avait passé le premier appel pour les aviser avait dit qu'il s'agissait d'un accident de la circulation, il a passé un second appel en disant non, en fait, c'est un meurtre, il y a des impacts de balles sur le corps, et donc c'est pas un accident.
Alors cette piste des Clarennes, cette famille des gens du voyage, est-ce que vous y avez cru, vous, qu'ils avaient donc tué Flaudert pour cette histoire de succession qu'ils ne voulaient pas valider ?
C'est-à-dire que dès le départ, on avait rien, on n'avait pas d'éléments. Comme on procède habituellement dans ce genre d'affaires, on commence à chercher un peu dans la vie de la victime, la vie familiale, les éventuelles maîtresses, enfin bref, tout ça. Et il se trouve que Maître Flaudert était, on peut dire, irréprochable de tous ces points de vue-là. Maîtresse, c'est hors de question, problèmes familiaux, il n'y en avait pas. Donc on a pensé qu'on pouvait rechercher la cause de son assassinat dans les dossiers de l'étude, au cas où il aurait eu des dossiers un petit peu sensibles. Donc la perquisition de l'étude notariale a été effectuée par nos collègues de la financière, à cette époque-là aussi, et un seul dossier, en fait, a retenu notre attention, à savoir une tentative de captation d'héritage. Maître Flaudet avait été sollicité pour recueillir le témoignage d'une demoiselle Renaud, au profit donc de d'une dame Clarenne qui faisait partie d'un clan, on peut dire, de gens du voyage plus ou moins sédentarisés. Or, quand Maître Flaudert a vu l'état de santé tant physique que moral de Mademoiselle Renaud, il a refusé d'enregistrer le témoignage, estimant qu'elle n'était pas apte à léguer sa fortune. Sa fortune qui était quand même relativement importante, puisqu'il y avait plusieurs immeubles de rapport à Longwy, et il y avait également des bons du trésor, enfin bref, pas mal de choses. C'était quand même une succession relativement importante.
Ça vous a convaincu, et évidemment, la balistique est venue apporter la cerise sur le gâteau. Quand vous faites cette perquisition, vous avez un souvenir précis de cette perquisition dans ce camp de la famille Clarenne? Alors, c'est pas un camp de caravane, hein. Ils sont sédentarisés, mais tout le monde habite dans le même coin, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Ils sont tous dans ce que nous, depuis Nancy, on appelle le pays haut, c'est-à-dire le nord de la Meurthe-et-Moselle, Longwy, tout ça, et également le nord meusien. Il nous semblait qu'on avait donc un mobile possible pour l'assassinat. C'est pour ça qu'on a fait des perquisitions simultanées chez tous les membres de la famille. Et on a saisi toutes les armes qu'on a pu découvrir d'un calibre correspondant à celui utilisé pour l'assassinat de Maître Flaudert.
Mmh. Ça n'était pas les Clarenne, on les a envoyés en prison, Maurice Clarenne et sa femme. Ça a coûté 120 000 francs à la société, parce qu'il a fallu indemniser ces pauvres gens qui n'y étaient pour rien.
En fait, c'est pas beaucoup. Je pourrais vous citer une autre affaire où un type avait fait soi-disant de la prison, alors qu'il a bénéficié par la suite d'un non-lieu. Lui avait touché 200 000 euros de la société. Et ouais. Puis, par la suite, un peu après, la science de l'ADN a fait des progrès et a permis d'identifier son ADN sur à l'intérieur du jean de la victime. Donc, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent.
Vous n'avez pas participé à la suite de l'enquête au moment de l'arrestation de Thomas Chevalier, de ses aveux à sa maîtresse. Vous n'êtes plus là, vous, hein ?
Non. Par la suite, lorsque les collègues de la financière ont interpellé Thomas Chevalier, bon, moi je m'occupais d'autres dossiers, parce que malheureusement les dossiers arrivent en assez grand nombre et on n'est pas toujours disponible pour revenir sur un ancien dossier.
Thomas Chevalier a toujours voulu, pour sa défense, réimpliquer les Clarenne, on le voit jusqu'au procès. Vous écartez totalement, vous, l'implication de cette famille dans cette affaire, aujourd'hui?
Vous savez, lorsqu'on a fait des perquisitions simultanées chez tous les membres du clan, on a retrouvé 7 armes, 22 longs rifles. Alors, je les vois mal aller à l'étude de Thomas Chevalier pour prendre son arme, aller flinguer Maître Flaudert, et ramener après l'arme en question chez Thomas Chevalier. Ça tient pas debout, ça. C'est une aberration.
Ouais. Ça correspond pas au bonhomme et à leur fonctionnement, quoi.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Alors, il y a quand même toujours un mystère dans cette affaire. C'est que le corps était sec. Et que donc, il a été déplacé. Il n'a pas été tué dans ce champ. Il a été tué ailleurs et déplacé. Et ça n'a pas été résolu. Et
non,
il a dîné.
Non.
Et on sait pas avec qui.
Effectivement, il avait mangé, je crois me souvenir, il y a du jambon et des cornichons qui avaient été retrouvés dans le bol alimentaire. Ouais. Donc ce qui suppose qu'il a pu prendre un apéritif ou un café, enfin bref, et puis grignoter quelques trucs. Donc c'est pareil en ce qui concerne le corps. Jusque passé 23 heures, le corps n'est pas sur place, sur le bord de la route. Donc, entre sa disparition, en gros 18h30, et la découverte du corps, il s'est passé plusieurs heures. Donc on peut supposer qu'il y a eu une discussion dans un endroit abrité entre son ou ses assassins et Maître Schauder.
Et que le meurtre n'a pas eu lieu là. C'est une affaire, au fond, qui laisse beaucoup de mystères.
Oui, enfin, il ne faut pas perdre de vue quand même que l'arme du crime a été retrouvée à l'étude de Thomas Chevalier, d'une part. D'autre part, Thomas Chevalier a reconnu avoir tué Maître Schauder à une tierce personne, donc à une de ses maîtresses. En plus, Thomas Chevalier n'a pas d'alibi. Tous les alibis qu'il avance se sont révélés être bidons. Je crois qu'on peut pas, même s'il reste un doute en ce qui concerne ce qu'il a fait et où il était entre 18h30 et la découverte du corps par son fils et son premier clerc, je crois qu'il n'y a pas de doute possible quant à sa culpabilité.
Et il n'y aura pas de révision.
D'ailleurs, c'est que la cour d'assises l'a reconnu coupable.
Absolument, et il n'y aura pas de révision puisqu'il est mort aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir réveillé ces vieux souvenirs, Gérard Verguet,
ancien
commandant de police de la police judiciaire de Nancy.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.